Bonjour à tous. Bienvenue pour cette table ronde, ou plutôt ce binôme de choc, on l'espère. Donc moi je suis Estelle Blanquet. Je suis formatrice sciences et didacticienne, comme l'indique le programme. Et je vais essayer de faire en sorte que Valérie nous dise tout sur le climat. Donc Valérie Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue et qui va passer l'heure avec nous à répondre à nos questions. Je compte bien vous faire participer et prendre vos questions très rapidement dans la salle. Il est temps vraiment qu'il y ait une interaction entre notre invité et vous, le public. Alors, paléoclimatologue, moi, tout de suite, la question, c'est quoi un paléoclimatologue ?
Alors, l'idée, en fait, c'est de comprendre comment fonctionne le climat. Cette machine formidable où on a deux fluides en mouvement, l'océan et l'atmosphère, puis également des interactions entre les surfaces continentales et l'atmosphère, les glaces et le reste de la machine climatique, en tirant parti d'expériences naturelles sur le climat terrestre. Donc ces expériences naturelles passées, ça peut être des variations dans l'activité du soleil, des variations des éruptions volcaniques majeures. Ça peut être également des changements de l'orbite de la Terre autour du Soleil, des changements à l'échelle géologique de la position des continents, des océans, la formation des chaînes de montagnes, ou l'évolution sur le long terme de la composition de l'atmosphère. Donc tout ça, en fait, fait partie d'expériences naturelles sur le climat de la Terre, et pour en tirer parti, il y a tout un travail de détective pour arriver à lire dans les milieux naturels, ce que nous on appelle les archives naturelles du climat, les indices laissés par les variations climatiques passées. Donc ça peut être d'étudier les coraux émergés sur des plages anciennes pour avoir des informations sur le niveau passé des mers. Ça peut être étudier des informations sur les températures passées dans tous les milieux possibles, les coraux pour les océans tropicaux, les pollens à nos latitudes, ou par exemple les glaces polaires. C'est directement sur cet aspect-là que je travaille. Ça peut être également caractériser les changements du cycle hydrologique, de la même manière dans un ensemble de milieux naturels. Et donc vous imaginez bien que c'est un travail de longue haleine, où vous allez avoir des groupes de scientifiques qui vont aller d'abord récupérer ces échantillons de plus en plus anciens, de plus en plus difficiles d'accès, ensuite en laboratoire les analyser, quantifier les variations des paramètres climatiques, et puis ensuite petit à petit agglomérer ça dans de grandes bases de données, pour faire en fait en quatre dimensions, c'est-à-dire les trois dimensions spatiales, y compris la profondeur des océans et le temps, une espèce de film de l'évolution passée du climat. Mais la compréhension du fonctionnement du climat, elle ne repose pas que sur ces informations ponctuelles presque. Elle se complète de tout un travail de modélisation où on va mettre en équation cette formidable machine climatique. Donc on va couper en cubes l'océan, l'atmosphère, les glaces, les surfaces des continents, on va simplifier tout ça. Et à partir de la compréhension des lois physiques qui les gouvernent, on va fabriquer ce qu'on appelle un modèle numérique de climat, qui est une sorte de terre virtuelle. Et avec cette terre virtuelle, on peut faire des expériences virtuelles. Et c'est ce qui nous permet de comprendre les relations entre une cause et des conséquences. Donc pour une période climatique passée ou présente ou future, on va faire l'hypothèse d'une cause et on va utiliser ces modèles pour en calculer les conséquences et les confronter aux observations en permanence. Donc il y a une imbrication en fait assez étroite entre la compréhension du fonctionnement du climat et puis le fait de tester cette compréhension sur différentes périodes paléoclimatiques, c'est-à-dire de climat passé, plus ou moins ancien. Par contre, ces modèles de climat, ce sont les seuls outils qu'on a pour explorer les risques futurs.
Alors là, moi, il y a plein de questions qui viennent en tête, en particulier, on pense climat, souvent on pense météo aussi. Tu vas sans doute, je te propose de nous faire très vite la distinction entre les deux, mais moi je pense météo, je me dis, on a des super énormes ordinateurs actuellement, en gros les plus gros ordinateurs moulinent en permanence pour faire des calculs pour la météo, et on arrive à prévoir la météo à quelques jours au mieux, quid du climat dans ces conditions ?
Alors effectivement, donc la météorologie, c'est le temps qu'il fait d'un jour à l'autre, et il dépend essentiellement de l'état initial de l'atmosphère, des vents, de la quantité d'humidité, de la température, et puis on peut ainsi, en connaissant le mieux possible l'état initial de l'atmosphère, calculer son évolution future au cours du temps. Évidemment, la connaissance qu'on a de l'état de départ de l'atmosphère fluctue. Plus on va avoir des réseaux de mesures développés, des systèmes d'observation par satellite qui moulinent en temps réel toutes ces informations, mieux on connaîtra l'état de départ et plus on pourra prévoir finement. Et si on compare les prévisions météorologiques qu'on faisait il y a une trentaine d'années et celles d'aujourd'hui, aujourd'hui on a les mêmes qualités de prévision à 5 jours qu'il y a 30 ans à en gros 2 jours. Et ce progrès-là, il est lié au réseau d'observation et il est lié à la puissance de calcul informatique qui permet de faire non pas une seule simulation à partir d'aujourd'hui pour savoir ce que sera le temps dans les prochaines heures, mais de faire des ensembles de simulations qui vont explorer l'incertitude qu'on a sur l'état aujourd'hui. Et on va ainsi avoir une approche probabiliste pour savoir le temps le plus probable des jours à venir. Et en même temps, au bout de quelques jours, l'atmosphère va oublier ses conditions initiales. Il y a vraiment une limite à la prévisibilité. Par contre, on va avoir une prévisibilité qui va être liée à l'état de l'océan, qui a une mémoire plus grande. On va avoir une prévisibilité, par exemple, qui est liée au cycle des saisons, donc à la position de la Terre autour du Soleil. Et en ce qui concerne le fonctionnement du climat global, on a une prévisibilité parce que on a une connaissance de ce qui va contrôler en moyenne cette évolution du climat. Et c'est vraiment le bilan d'énergie de notre planète, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui rentre et la quantité d'énergie qui sort. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est à partir d'un état de départ complètement aléatoire, d'imposer l'évolution, par exemple, de l'activité du Soleil, les cycles de 11 ans et les cycles plus longs, d'imposer l'histoire des éruptions volcaniques majeures. La dernière grosse éruption, c'était le volcan Pinatubo en 1991. D'imposer l'impact des activités humaines à travers le changement de l'usage des sols, le fait de déforester, le fait d'urbaniser, le fait d'émettre des particules qui vont avoir un effet parasol au niveau planétaire, le fait d'émettre des gaz à effet de serre qui vont piéger de la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère. Et quand on prend l'ensemble de ces effets, on arrive à représenter assez correctement l'évolution du climat global, c'est-à-dire l'évolution des températures de l'air, l'évolution des températures des océans, du niveau des mers, les changements de cycle de l'eau, etc., depuis environ 150 ans jusqu'à aujourd'hui. De la même manière, si on change l'orbite de la Terre autour du Soleil, lentement, hein, c'est quelque chose qui se produit sur des milliers d'années, on peut simuler progressivement la manière dont le climat peut basculer entre une période chaude et une période glaciaire, à condition de bien représenter tous les phénomènes amplificateurs qui font intrinsèquement partie de cette machine climatique. Alors, je peux peut-être les décrire brièvement. Donc, ces phénomènes amplificateurs sont de type, pour une raison initiale, vous, par exemple, vous refroidissez l'atmosphère, vous allez avoir un peu plus de neige sur les continents à nos latitudes ou plus au nord, une saison de neige un peu plus longue. L'effet miroir de la neige va amplifier le refroidissement. De même, si vous refroidissez la surface des océans près des pôles, vous allez avoir plus de glace de mer, plus de banquise. Son effet miroir va amplifier le refroidissement. Si vous remplacez de la forêt de conifères par de la toundra, la forêt de conifères, elle dépasse de la neige, elle reste sombre en hiver, alors que la toundra se recouvre de neige. Donc on a un effet miroir encore plus puissant. Et puis même, tout simplement, un climat plus froid, c'est aussi un climat où l'atmosphère a moins de vapeur d'eau, plus sec, moins d'effet de serre lié à la vapeur d'eau. Et puis quand le climat change, le cycle du carbone change, un océan plus froid va séquestrer plus de dioxyde de carbone, moins d'effet de serre, un climat encore plus froid. Un climat plus sec, c'est un climat avec moins de zones humides, moins de production de méthane, qui est un autre gaz à effet de serre, et donc un climat qui continue à se refroidir. Alors ça, je vous le décris dans le sens boule de neige, c'est-à-dire comment le climat bascule entre un état chaud interglaciaire et un état glaciaire, sur une échelle de temps de l'ordre de 5000-10 000 ans. Et à l'inverse, quand le climat se réchauffe, ces mêmes processus vont jouer dans l'autre sens, c'est-à-dire on part d'un état froid, et on va déglacer, ce qui amplifie le réchauffement, on va réchauffer les océans, ce qui va rejeter des gaz à effet de serre, on aura plus de zones humides qui vont rejeter du méthane, etc. Donc ce même genre de processus amplificateur, vous voyez bien qu'il n'y a pas que de la physique, il y a aussi tout ce qui touche au cycle du carbone, aux interactions entre les plantes, le cycle du carbone, l'atmosphère, ou même les écosystèmes marins le cycle du carbone marin et l'atmosphère. Et donc tout ça fait partie de cette machine climatique. Et une des difficultés qu'on a, c'est que la période actuelle, où on a beaucoup de mesures, elle est quand même assez brève. Ce qu'on appelle la période instrumentale, où on a des enregistrements précis, elle est au mieux de l'ordre de 150 ans. Et donc elle nous permet de tester qu'une partie de notre compréhension, celle des processus rapides. Et en ce qui concerne donc l'évolution du climat, par exemple, futur, on va avoir d'abord des processus rapides qui vont jouer, et puis ensuite des processus plus longs. La réponse de l'océan profond, la réponse du pergélisol, la réponse des glaces polaires. Et ces processus-là, on n'en a qu'une compréhension actuellement très imparfaite, parce qu'on les observe depuis peu. Et donc on va essayer aussi de tirer parti de cas particuliers de climat passé pour les tester dans des configurations un peu plus extrêmes.
Les physiciens aiment bien parler en termes de paramètres, à savoir, je regarde ce que je peux changer, j'identifie les choses susceptibles de changer, et puis à partir de là, j'essaye d'en fixer un certain nombre, autant que possible, pour pouvoir voir l'effet d'un paramètre particulier sur le reste. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de l'ordre du nombre de paramètres qui sont en jeu? Parce que, bon, je travaille avec un levier, un petit pivot et puis une planche dessus. On a tous joué à ça à l'école quand on s'ennuyait avec une gomme, une règle et puis deux crayons. Et puis on voit bien que là, les choses qui jouent, c'est les distances à notre pivot et puis les points de nos objets. Ça fait pas grand-chose, mais là, on parle de combien de paramètres à peu près?
Alors, un modèle de climat moderne, ça représente à peu près 1 million de lignes de code, pour faire vraiment grossier. Donc quelque chose d'assez lourd. On estime qu'il faut au moins une dizaine d'années à une cinquantaine de scientifiques pour le développer. Aujourd'hui, dans le monde, on a une quarantaine de modèles de climat, donc dans les pays occidentaux et puis dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est également. Et donc, y a d'abord de la physique des processus qui est bien connue, par exemple la représentation des transferts de rayonnement. C'est simplifié pour gagner du temps de calcul, mais c'est bien connu. Les cubes sur lesquels se font les calculs, la taille de ces cubes, elle est limitée par la puissance des ordinateurs les plus puissants disponibles. Donc pour le climat global, elle se fait aujourd'hui sur des cubes qui font de côté environ 80 par 80 km. Donc vous voyez que tout ce qui est lié à des processus de petite échelle, les microclimats, l'effet des reliefs, l'effet du littoral sera très mal représenté. Donc ça sera simplifié. Ensuite, à l'intérieur donc, de ces cubes, donc une quarantaine de niveaux verticaux dans l'atmosphère et puis 80 par 80 km, tout ce qui est plus petit que cette échelle-là, on ne peut pas le résoudre parfaitement à partir des lois physiques, donc on va le paramétrer, effectivement. Donc tout ce qui est l'effet de la turbulence sur l'écoulement des vents, sur les courants marins, ça va être paramétrisé, simplifié. Ce qui est particulièrement critique pour le climat, c'est la représentation des nuages. Donc un nuage, en fait, c'est une distribution de gouttelettes d'eau, de cristaux de glace. Ça se fait à toute petite échelle d'espace et de temps. Et on va représenter de manière schématique, statistique, en fait, à l'intérieur de nos cubes, cette distribution de gouttelettes ou de cristaux de glace. Et puis la formation des nuages, elle va dépendre de la charge en impureté de l'atmosphère, ce que nous on appelle des aérosols. Ça peut être des poussières désertiques, mais ça peut être aussi des particules liées à la pollution d'origine humaine. Donc on va aussi représenter de manière schématique l'interaction entre ces impuretés présentes dans l'atmosphère et puis la formation des nuages. Et ensuite, ces nuages vont nous permettre de calculer le bilan d'énergie qui va s'échanger verticalement à travers les transferts de rayonnement. Et donc si je devais donner un ordre de grandeur, il y a peut-être une centaine au moins de paramètres ajustables pour représenter correctement différents aspects dans un modèle de climat. Et donc il y a tellement de paramètres, il y a tellement de degrés de liberté, et plus on ajoute de composantes, plus on ajoute des degrés de liberté. Il y a ceux de l'atmosphère, de l'océan, de la représentation de la végétation des sols, des zones humides, des glaces, etc. Plus on a un modèle de climat complet, plus il va comporter de degrés de liberté, ce qui fait qu'ils sont très difficiles à optimiser. Pour l'instant, il n'existe pas un modèle de climat dans le monde dont on puisse dire qu'il est meilleur que les autres. Chaque groupe va mettre l'accent sur ce qui l'intéresse. Par exemple, si vous êtes en Norvège, ce qui va vous intéresser, c'est représenter le mieux possible les courants marins de l'Atlantique du Nord et la formation de la banquise. Et vous allez améliorer, mieux régler votre modèle pour qu'il soit plus réaliste sur cet aspect-là. Si vous êtes en Inde, vous êtes très sensible à la circulation et aux précipitations de mousson, et vous allez raffiner et représenter, essayer d'optimiser votre modèle globale pour qu'il ait une performance meilleure par rapport à la représentation du début, de la fin de la saison de mousson ou du cumul de précipitations, par exemple. Etc. Si vous êtes en Chine, vous allez être plus sensible, par exemple, à la position respective des systèmes de mousson et puis des zones arides un peu plus au nord, et vous allez mettre l'accent sur cet aspect-là. Et donc, il y a une vraie difficulté quand on utilise ces modèles pour appréhender l'incertitude. Comment quantifier l'incertitude liée au choix de ces paramètres? Et donc, ce qui est fait actuellement, c'est pour un scénario d'évolution du climat donné, pour une expérience virtuelle qu'on va faire, de comparer les 40 modèles existants, chacun étant optimisé d'une manière un peu différente. Et c'est leur dispersion qui va nous donner une idée de l'incertitude sur le fonctionnement de la machine climatique.
Leur dispersion, tu peux nous expliquer un peu à quoi tu penses là?
Alors par exemple, on peut prendre un exemple de scénario où on va augmenter les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc c'est l'expérience grandeur nature que l'on fait depuis 150 ans et qu'on peut poursuivre à hauteur des ressources en énergie fossile qui sont très importantes en ce qui concerne en particulier le charbon. Donc dans ce scénario, on pourrait en gros tripler d'ici à 2100 les rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère par rapport au niveau actuel. Donc là, c'est le scénario donné. Et pour ce scénario, on va comparer les calculs faits avec ces 40 modèles de climat différents. Et dans ce cas-là, on obtient un réchauffement moyen de l'ordre de environ 4 degrés d'ici à 2100. Mais vous allez avoir certains modèles qui vont donner un réchauffement un peu plus faible et d'autres modèles un réchauffement un peu plus fort, leur moyenne étant autour de 4 degrés. Voilà. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir une idée de l'incertitude associée à un scénario socio-économique ou un scénario en termes d'impact des activités humaines sur le climat.
Alors quand tu parles de scénario, tu parles d'impact socio-économique, ça veut dire que tu injectes dans ton modèle de l'humain, des comportements humains, et sans doute des décisions politiques, ce genre de choses qui est par définition assez difficilement mettable en équation, j'ai envie de dire. Ce qui veut dire que finalement, ces scénarios s'écrivent, commencent à être des histoires plutôt que des calculs.
Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait à partir des années, à partir des années 1970, où a commencé à se poser la question de l'impact des activités humaines sur le climat et les conséquences, les risques climatiques futurs. Et ces scénarios, en fait, étaient élaborés dans chaque laboratoire. C'est-à-dire chaque scientifique imaginait son histoire du développement à venir et s'en servait pour faire des simulations du climat. Et à partir des années à la fin des années 1980, il y a eu une standardisation de ces scénarios. L'analogie qu'on pourrait donner, c'est un peu comme le patinage artistique. Il y a les figures libres et les figures imposées. Donc là, c'est les figures imposées, en fait. Tous les groupes de modélisation vont faire les mêmes exercices. Et au départ, ces scénarios étaient conçus par des économistes. Donc, ils exploraient des scénarios d'augmentation de la démographie mondiale. Ils exploraient différents types de développement, soit sur les schémas actuels business as usual, c'est-à-dire énergie fossile croissante, soit sur des schémas de développement alternatif, de transfert de technologie, etc. Donc, on avait en fait dans ces scénarios un ensemble d'incertitudes. Parce que ce qui va jouer sur le climat, ça peut être l'usage des sols, je l'ai expliqué tout à l'heure, le rejet de particules et le rejet de différents gaz à effet de serre. Et selon ces scénarios socio-économiques, on avait différents types d'activités humaines qui auraient un effet différent sur le climat à l'échelle, disons, continentale ou à l'échelle globale. Alors aujourd'hui, on est un peu revenu en arrière. Et donc ce qu'on fait pour, en particulier, les simulations qui ont été faites pour le 5e rapport du groupe d'experts sur l'évolution du climat, ce sont des scénarios idéalisés qui sont utilisés en termes de perturbations radiatives. Donc en fait, on s'affranchit quelque part de ces incertitudes sur les aspects humains. Et on va juste essayer de faire des simulations de risques climatiques sur des trajectoires de perturbations du bilan d'énergie de la Terre. Perturbations faibles, perturbations fortes. Et ensuite, on a des économistes, et en particulier des économistes de l'énergie, qui vont construire des scénarios humains compatibles avec ces différentes trajectoires. Alors je vais essayer de le formuler autrement. On va explorer, nous, quatre grands scénarios un scénario de triplement en gros des émissions de gaz à effet de serre et un scénario de plafonnement rapide et de diminution dans les décennies qui viennent, dans les prochains 20 ans. Le scénario que j'ai décrit tout à l'heure, il donne lieu à un réchauffement global d'environ 4 degrés d'ici à 2100. Le scénario bas, il donne un réchauffement qui est autour de 1,5 degré, 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Donc ça, c'est à peu près la gamme des plausibles, purement en termes de réponse de la physique du climat, presque. Puis il y a deux scénarios intermédiaires. Et après, une autre question est, a-t-on les ressources fossiles suffisantes pour tripler nos émissions de gaz à effet de serre? Donc ça, c'est vraiment une question en termes de ressources énergétiques, d'économie de l'énergie disponible. Ou à l'inverse, quels sont les schémas de développement qui peuvent faire qu'on maîtrise au niveau global les émissions de gaz à effet de serre rapidement? Ça veut dire les maîtriser très rapidement dans les pays riches, et puis d'ici une vingtaine d'années dans les pays émergents. Et ensuite, à horizon 2050, ne plus émettre du tout de dioxyde de carbone. Ce qui veut dire un monde totalement différent en termes d'utilisation de l'énergie par rapport au monde actuel. Et même dans ce scénario-là, des émissions négatives de gaz à effet de serre dans la deuxième moitié du siècle. Ça veut dire au lieu d'émettre du dioxyde de carbone, le séquestrer. Le séquestrer à côté de centrales, par exemple à charbon, en le piégeant dans les sous-sols, ou le séquestrer en allant le pomper de l'atmosphère, soit par des méthodes de gestion des surfaces continentales, soit par des méthodes qui restent à imaginer de piégeage du dioxyde de carbone en accélérant des processus de calcification ou autre. Et finalement, la raison de ce changement, elle tient aux questions posées par les politiques. Parce que finalement, à côté du travail scientifique qui est fait pour évaluer quelles peuvent être les trajectoires d'évolution du climat global au cours du temps, on a eu une décision politique qui est issue des négociations de Copenhague en 2009 et des négociations suivantes sur le climat. Et cette décision politique était le choix affirmé de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement, sans dire à quelle date, par rapport au climat pré-industriel. Alors le climat pré-industriel 1750, on n'avait pas de thermomètre globalement à cette époque-là. Donc nous, notre référence, c'est environ 1850, à partir de la période à partir de laquelle on a une estimation de la température moyenne à la surface de la Terre. Depuis cette période-là, on a déjà eu 0,8 degré de réchauffement. Donc si on veut respecter l'objectif affiché par les gouvernements, il ne faudrait pas que ce réchauffement dépasse 1,2 degré supplémentaire. Et donc la question qui est posée, c'est quelles sont les trajectoires économiques permettant de respecter cet objectif que se sont fixés les gouvernements. Donc il y a une sorte de dialogue entre les climatologues qui vont faire différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et leurs conséquences sur le climat, et puis ensuite d'autres communautés, les communautés qui s'intéressent aux stratégies d'atténuation, aux stratégies socio-économiques compatibles avec ces trajectoires d'émissions.
Alors, moi, j'entends ça, évidemment, je pense science-fiction. Et effectivement, la science-fiction, ça s'amuse beaucoup, enfin, s'amuse d'une certaine façon, en tout cas, construit des scénarios et réfléchit, a déjà réfléchi pas mal à ce genre de société, poste plein de choses de façon générale. Alors, souvent, avec des extrêmes, parce que c'est là où il se passe des choses un peu plus rigolotes. En tout cas, c'est là où il y a des choses où on peut raconter des histoires un peu extraordinaires. Quelle différence tu verrais, toi, entre les gens qui à partir de ces inflexions différentes, construisent des simulations, finalement, et puis l'auteur de science-fiction qui se met dans une position de hard science-fiction, c'est-à-dire qui va respecter les faits autant que possible et qui va bâtir son scénario en respectant ses faits.
Donc je pense que, d'abord, c'est dans les deux cas un travail de création, quelque part. Pour les scientifiques du climat, c'est la création d'outils de ces espèces de terres virtuelles avec lesquelles on peut faire ces expériences. Et puis, le terme qu'on utilise, d'ailleurs, est intéressant, on parle de projection. C'est-à-dire, on ne parle pas de prédiction, de prévision, comme pour la météorologie. On parle de projection parce que implicitement, on fait référence à un scénario. si on a uniquement l'impact des activités humaines et sur cette trajectoire, alors voilà l'histoire en termes de risque climatique qu'on peut calculer le plus précisément possible. Mais derrière, effectivement, ce travail-là, derrière toutes ces cartes auxquelles vous échappez, mais qu'on produit et qui permettent d'illustrer ce que pourrait être notre planète, vue de l'espace, la distribution du régime des pluies, la météorologie même d'ici une cinquantaine d'années, une planète différente en fait, avec des extrêmes plus prononcés pour les vagues de chaleur, pour les fortes précipitations, des cycles de l'eau plus contrastés entre les régions sèches et les régions humides, ou les saisons sèches et les saisons humides, ça reste en fait très théorique, je dirais. Ça reste très difficile pour nous d'arriver à embarquer tout un chacun dans ces simulations, d'arriver à imaginer ce que pourrait être un tel monde. Et en ce sens, je pense que la création de romanesque, la création des auteurs de science-fiction, elle permet de donner un visage humain, elle permet de traduire sur les relations humaines, les relations sociales, même les systèmes politiques, comment pourraient se décliner à la fois les conséquences d'un climat qui change et qui change vite, ou les conséquences de politiques climatiques très contraignantes, au sens où on irait vers une sobriété énergétique forte. Et donc, il y a également toute une réflexion sur la notion de liberté, sur la notion de liberté individuelle, de liberté collective, à côté de cette réflexion plus théorique sur ces scénarios et leurs conséquences en termes de climat, que ce soit à l'échelle globale ou à l'échelle de différentes régions. Mais effectivement, le fait, par exemple, dans ce travail récent, de dire dans le scénario le plus fort et en prenant les modèles qui sont les plus raisonnables pour représenter par exemple la banquise arctique, on simule un océan arctique à la fin de l'été libre de banquise vers 2050. On en est là dans ces calculs. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont commencé à se projeter vers cette espèce de nouvelle frontière d'un océan arctique accessible pour le transport, pour l'exploitation pétrolière, minière, etc., comme une forme de nouvelle frontière qui s'ouvre sur cette planète-ci, avec le mélange complexe d'opportunités et de vulnérabilités, évidemment, associées à ces bouleversements, parce qu'on a parlé des humains, on a parlé d'économie, mais on peut aussi parler d'écosystèmes. Et évidemment, plus les changements climatiques seront rapides, plus on aura des bouleversements des écosystèmes qui se sont construits, qui se sont façonnés au cours des millénaires, qui intègrent des équilibres subtils entre prédateurs, proies, etc. Et donc, on va aussi vers un monde certainement de bouleversements difficiles à imaginer avec les outils de modélisation dont on dispose. Dans les modèles de climat, on n'a pas, par exemple, les insectes, on n'a pas les choses qui peuvent affecter la végétation à ce niveau-là. On va juste avoir des grands types de végétation qui vont être simulés au cours du temps. Et donc, donner chair quelque part à ces impacts, à ces bouleversements, à ces transformations de nos sociétés, je pense que là, il y a vraiment un aller-retour entre l'œuvre de fiction et puis cette communauté scientifique qui essaye de produire des simulations pour qu'elles soient utiles aussi. Donc pas uniquement utile dans l'imaginaire, mais aussi utile comme guide aux décisions d'aujourd'hui. Avec toute cette interrogation sur finalement comment on utilise le fait de pouvoir aujourd'hui anticiper sur les risques climatiques futurs, comment en retour cette connaissance modifie, transforme le présent. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un échange quelque part enrichissant entre la fiction pure et puis entre les simulations qui peuvent être faites de ces risques climatiques.
Merci Valérie. Je propose que d'ouvrir les questions. Je pense qu'on a posé posé bien les points importants du problème ou de la question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle en lien avec ce qu'on a déjà dit? Ah.
Bonjour, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les 40 modèles qui ont chacun une spécificité ou un point d'intérêt particulier, à quelle distance on est d'un modèle planétaire global qui pourrait unifier l'ensemble de ces systèmes-là ?
Alors en fait, pour le moment, je dirais que le modèle parfait n'existe pas en ce qui concerne la modélisation du climat. Il est très probable qu'il n'existe pas du tout, au sens où il y a deux voies de progrès. La première voie de progrès, c'est pouvoir simuler le climat global avec une résolution spatiale beaucoup plus fine. Un des objectifs, c'est d'aller demain à une résolution de 50 km. Donc Météo France vient de s'équiper d'un nouveau supercalculateur dans cet objectif et d'aller même à une échelle d'espace de l'ordre de 15 km. Alors pourquoi est-ce qu'il faut aller aussi finement ? Parce que, par exemple, dans ces modèles de climat global, on ne représente pas les tempêtes à leur échelle d'espace et de temps. Donc si on veut vraiment représenter la météorologie qui est à l'intérieur du climat et celle qui a le plus d'impact en termes de risque pour les activités humaines, il faudrait aller vers une résolution de l'ordre de la quinzaine de kilomètres. Ça demande plusieurs ordres de grandeur de progrès en capacité de simulation, de calcul informatique. Aujourd'hui, ce qui se fait de plus fin, c'est ça a été construit au Japon. Donc le Japon se trouve sur la trajectoire de cyclones, les typhons asiatiques. La forme du Japon, sa forme très fine, fait que pour représenter le climat à la surface du Japon, il faut le représenter des mailles petites. Et de même le relief très particulier du Japon. Donc, dans ce pays a été développé un effort de simulation très, très, très approfondi à travers une machine dédiée au climat qui s'appelle le Earth Simulator, simulateur terrestre. Donc, c'est un ensemble d'ordinateurs parallèles qui fait la taille d'un, représente la taille d'un terrain de foot et qui sont dédiés à la simulation de la météorologie et du climat. Mais si vous avez ce modèle qui va tourner avec une grille très fine, vous allez pouvoir faire seulement des simulations assez courtes, parce que vous êtes limité en temps de calcul, et vous n'allez pas pouvoir explorer sur le long terme, sur un ensemble de simulations différentes. A l'inverse, donc là c'est en gros représenter le mieux possible la dynamique, vraiment, la météorologie. Et à l'inverse, vous avez une autre philosophie, je dirais, qui est de représenter l'énergétique du système climatique le mieux possible. Ça veut dire représenter le mieux possible les échanges de rayonnement, la formation des nuages, le transfert d'énergie depuis la surface des continents vers l'atmosphère, les océans vers l'atmosphère. C'est par exemple ce qui avait été construit par la NASA, qui a un modèle de climat plus grossier, mais probablement plus réaliste en ce qui concerne les transferts d'énergie. En ce qui concerne aussi les échelles de temps plus longues. Donc les processus qui vont jouer non pas à quelques jours, mais à l'échelle de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années et plusieurs milliers d'années. Et donc cette deuxième voie, elle permet aussi d'évaluer le caractère irréversible de certains changements. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2, est stockée par la végétation et les sols, l'autre moitié par les océans. La moitié est stockée par ces puits naturels, un quart donc par la végétation et les sols, un quart par les océans. Donc les océans s'acidifient, stockent du dioxyde de carbone. Le temps de mélange des eaux de mer, en trois dimensions, le grand tapis roulant océanique, c'est environ 1000 ans. De même, aujourd'hui, on a un océan qui stocke 90% du surplus de chaleur à la surface terrestre. Donc les eaux de mer se dilatent, le niveau des mers monte. Et ce surplus de chaleur va persister. Hein, pour l'instant, il est stocké en profondeur et il va persister pendant plusieurs siècles, une échelle de temps de l'ordre du millier d'années dans l'océan. Et c'est aussi important d'explorer les conséquences sur le long terme de différents scénarios. Donc, je dirais qu'il y a ces deux écoles. Soit mettre l'accent sur la dynamique fine, soit mettre l'accent sur la physique, la représentation des nuages, la représentation de la cascade d'énergie dans la machine climatique. Et elles ne sont pas nécessairement compatibles, ces deux approches-là. Donc du coup, on a tout un spectre de modélisation entre les deux qui fait partie des développements en cours autour de la modélisation du climat. Et puis enfin, on a une troisième voie, entre guillemets, nouvelle, qui est d'aller vers, non pas des projections théoriques à long terme, 30 ans, 50 ans, 100 ans, mais d'essayer de faire des prévisions d'une saison à l'autre, d'une décennie à l'autre. Et la voix, ici, elle est dans le fait d'assimiler les observations du climat aujourd'hui dans ces modèles, et en particulier d'assimiler les observations en trois dimensions de l'état de l'océan. On sait qu'en prenant mieux en compte les courants marins de surface, les courants intermédiaires et les courants profonds, on a une capacité d'anticipation, on a une mémoire du climat sur des échelles de temps qui vont jusqu'à une dizaine, une quinzaine d'années. Et c'est aussi une question que la société nous pose souvent, non pas de faire des prévisions théoriques sur des scénarios hypothétiques sur le long terme, mais de savoir quelles peuvent être les possibles localement et à 10-15 ans. Et donc on a cette nouvelle voie qui s'ouvre grâce au réseau de mesures en trois dimensions de l'état des océans, de les assimiler en temps réel et de faire des prévisions climatiques qui sont basées sur l'assimilation de ces données, comme pour la météorologie, pour l'atmosphère, mais élargies au couple océan-atmosphère. Et donc cette troisième solution, elle est également construite et elle complète les deux autres. Donc le modèle unique en termes de fonctionnement du climat, je ne suis même pas sûre qu'il puisse exister. Le fait d'avoir des approches différentes, d'avoir des groupes nouveaux, en particulier en Corée du Sud, au Japon, en Amérique du Sud ou en Chine, qui développent de nouveaux modèles de climat, ça permet, c'est très stimulant, ça permet de confronter des outils différents avec des performances, des paramétrisations différentes. Parce que finalement, ce qui est aussi important, ce n'est pas la trajectoire moyenne, mais c'est aussi la barre d'erreur associée à ces simulations. Et c'est cette diversité qui permet de l'évaluer.
Merci. Une autre question dans la salle ?
Bonjour. J'aurais voulu savoir, dans un scénario probable de 4 degrés d'augmentation de température, quelles seraient les conséquences pour la planète et l'humanité ? Et il me semble qu'à une époque, il n'y avait aucune glace au pôle sur la planète. Est-ce que c'est un scénario probable pour le futur ?
Alors, donc, un réchauffement d'environ 4 degrés dans le scénario haut, ça correspond à une montée du niveau des mers d'environ 80 cm. On ne peut pas exclure quelque chose de l'ordre de 1 mètre dans les simulations les plus hautes à horizon 2100. Pour donner également un ordre de grandeur en termes de niveau des mers, aujourd'hui, il monte de 3 mm par an en moyenne pour la planète. Dans ce scénario, à horizon 2100, il monterait de 8 à 15 mm par an, c'est-à-dire 3 à 5 fois plus vite qu'aujourd'hui. Et cette montée du niveau des mers se poursuivrait. Dans ce cas-là, sur les deux siècles suivants, on peut aller jusque 3 mètres, estimé à ce jour, avec une incertitude assez grande sur la montée du niveau des mers. C'est également donc, une planète où on aurait un océan arctique libre de glace en été, quasiment entièrement libre de glace en été, mais une banquise fine qui se reformerait chaque hiver pour fondre l'été suivant. Ce serait donc un climat avec un cycle de l'eau beaucoup plus contrasté, avec une augmentation des précipitations dans la bande équatoriale, dans les régions tempérées ou polaires, et une diminution des précipitations dans les zones de climat semi-aride ou méditerranéen actuel. De la même manière, d'une saison à l'autre, ce serait une augmentation des précipitations pendant les saisons humides et une diminution pendant les saisons sèches. Donc un cycle de l'eau beaucoup plus contrasté, ça ce serait lié à une modification des cellules atmosphériques de part et d'autre de l'équateur. En ce qui concerne les événements météorologiques extrêmes, ce qui est simulé, c'est une augmentation très forte des vagues de chaleur, mais vraiment assez spectaculaire, et une augmentation de l'intensité des précipitations les plus importantes. Également une augmentation de la durée des phases sèches, c'est-à-dire sans précipitation. Il y a des interrogations autour des autres événements de type, par exemple, tempête, ouragan. Il est très probable que l'impact des ouragans les plus puissants serait augmenté du fait de précipitations plus importantes et aussi du risque de submersion avec un niveau des mers plus élevé. Donc ça, c'est pour me cantonner à la partie, je dirais, climat et à ses grands traits. En ce qui concerne l'impact sur les activités humaines, il est en train d'être évalué par les spécialistes donc de ces questions d'impact et d'adaptation qui vont rendre public leur rapport, ce qu'on appelle le groupe 2 du groupe d'experts sur l'évolution du climat. Il sera rendu public en mars prochain. On sait que plus le réchauffement climatique sera important et rapide, plus il aura des impacts sur un certain nombre d'écosystèmes, un certain nombre d'activités humaines. Il y a des stratégies d'adaptation qui existent pour un certain nombre de productions agricoles. Moi, j'avais entendu un des spécialistes de l'INRA en France expliquer qu'avec les technologies envisagées et le scénario le plus haut, dans le meilleur des cas, le succès serait de maintenir la production agricole française au niveau actuel. C'est-à-dire le progrès ne serait pas une augmentation de la capacité de production, mais malgré un climat qui change, d'arriver à maintenir une production au niveau actuel d'ici à 2100. Pour donner un exemple précis, à l'échelle en tout cas française. Il y a un certain nombre de facteurs pour lesquels les conséquences sont assez difficiles à évaluer. Par exemple, l'acidification des océans pourra déstabiliser un certain nombre d'écosystèmes marins. On peut parler des récifs coralliens, on peut parler des chaînes alimentaires marines. Il est très difficile d'anticiper les conséquences précises, mais il est certain que cette acidification dans le scénario le plus haut aurait des conséquences majeures et en particulier sur les écosystèmes marins les plus récents qui n'ont pas connu des océans acides. Et pour revenir à votre question qui était à l'échelle géologique, on a eu des périodes de climat plus chaud. Donc déjà aujourd'hui, la teneur en dioxyde de carbone, elle est celle du Pliocène, il y a environ 3 millions d'années. Pendant les phases chaudes du Pliocène, on avait un climat global 2-3 degrés au-dessus du climat pré-industriel, un niveau des mers de l'ordre de 10 mètres au-dessus du niveau actuel. La limite à l'analogie, c'est que la réponse des calottes de glace, elle est longue, elle est graduelle. Du côté du Groenland, on sait probablement qu'il y a un seuil à partir duquel on peut enclencher une déglaciation du Groenland. Ce seuil, il est entre 1 et 4 degrés au-dessus du climat pré-industriel. On ne peut pas dire plus finement. Et on sait que la constante de temps, elle est de plusieurs siècles à l'échelle du millénaire. Donc tout va dépendre finalement du temps pendant lequel on irait vers des températures plus élevées que ce seuil, de la durée au-dessus de ce seuil. On a des incertitudes majeures du côté de l'Antarctique. Donc il y a un certain nombre de portions de l'Antarctique, en particulier l'Antarctique de l'Ouest, dont on sait qu'elles sont potentiellement instables. Au cours du XXIe siècle, même si celle-ci était déstabilisée, ça ne ferait pas plus de quelques dizaines de centimètres de montée du niveau des mers. Par contre, sur le plus long terme, il est très difficile de chiffrer quelle pourrait être la contribution des glaces de l'Antarctique en termes de niveau des mers. Mais il est très probable que la partie est, le gros morceau, 60 mètres d'équivalent niveau des mers, ne réagira pas. Donc les questions se posent sur la partie ouest, l'équivalent d'environ 4 mètres de niveau des mers et certaines petites parties instables de l'Antarctique de l'Est. Donc, une planète avec une déglaciation importante du pôle Nord, c'est plausible sur une échelle de temps de plusieurs siècles dans le futur. Par contre, du côté de l'Antarctique, ça resterait très partiel et la calotte principale de l'Est, elle est suffisamment stable pour persister malgré l'impact des activités humaines dans les scénarios les plus hauts.
D'autres questions? Ah. Allez, monsieur.
Bonjour. En fait, j'ai deux questions pour vous. La première, c'est suite à un documentaire télévisé que j'ai vu il y a quelques mois et qui explorait une théorie qui, je crois, s'appelle la cosmoclimatologie. En gros, qui raconte que le climat ou la couverture nuageuse serait essentiellement liée au rayonnement cosmique. Donc je voulais avoir votre point de vue personnel ou celui de vos collaborateurs sur ce point. Et ma deuxième question était relative au modèle. Vous disiez qu'il y avait des paramètres qui sont très liés à l'activité humaine, comme l'urbanisation, etc., qui permettaient de prévoir les impacts. Est-ce qu'à contrario, il pourrait aussi nous permettre, ce modèle, de prévoir ce qui serait tenable en termes d'urbanisation, en tout cas d'impact humain sur la planète? Merci.
Alors sur le premier point, donc c'est effectivement une théorie qui a été proposée en particulier par un scientifique danois, Sven Smark, basée sur des corrélations entre les variations de la couverture de nuages bas et les fluctuations du rayonnement cosmique qui parvient sur la haute atmosphère. Alors la première chose, c'est que ces corrélations, elles sont pas stables au cours du temps et que le mécanisme, s'il y en a un, il est absolument pas compris. Donc le CERN, par exemple, a réalisé un certain nombre d'expériences de nucléation, c'est-à-dire de production de nuages, en simulant l'impact d'un rayonnement de type cosmique. La conclusion des expériences cloud menées au CERN sont qu'un tel mécanisme est possible. Par contre, la quantité de nucléation qui serait produite de cette manière-là serait probablement mineure par rapport à la charge en particules autres dans l'atmosphère, particules de sel marin, particules de poussière désertique, particules de pollution, qui sont présentes sur de nombreux ordres de grandeur en plus par rapport à ce que pourrait être cet effet. Donc ma réponse, elle est partielle. Elle est, le mécanisme de nucléation peut exister. En tout cas, il a été testé en expérience contrôlée. L'ordre de grandeur serait probablement mineur dans l'atmosphère réelle. Les corrélations montrées par les scientifiques danois qui avaient été repris par le documentaire que vous mentionnez, elles ne sont pas stables au cours du temps, et donc ce n'est pas sur ce type de choses qu'on va fonctionner pour construire une compréhension, c'est sur les processus physiques à l'œuvre. Sur le deuxième aspect, c'est effectivement quelque chose qui est également appréhendé dans tous les sens. Une question qui se pose, par exemple, serait, dans le cadre d'une... un développement très important des activités humaines sur une planète à 10 milliards d'humains, quel pourrait être le partage de l'usage des sols entre production d'énergie renouvelable, solaire, éolienne, production de matières premières agricoles, préservation d'espaces naturels, et les interactions entre ces changements d'usage des sols, le climat régional, les puits de carbone locaux. Est-ce qu'on pourrait construire une forme d'optimisation, quelque part, d'usage des sols pour optimiser à la fois les puits de carbone, la production agricole, la production d'énergie? Donc il y a des outils qui sont en train d'être construits, en particulier dans mon laboratoire, pour représenter ce type de processus. Certains collègues se posent la question de l'impact des activités humaines sur un déploiement à grande échelle de production d'énergie éolienne. Quel impact cela pourrait avoir sur les microclimats régionaux? Et vice-versa. Donc il y a vraiment effectivement des outils qui sont construits pour mieux coupler, mieux représenter les interactions dans tous les sens entre climat, production agricole, production d'énergie renouvelable, et dans l'autre sens, changement d'usage des sols, impact des activités humaines, conséquences sur le climat régional ou le climat de grande échelle. Un exemple qui a été étudié, par exemple, c'est le déploiement de champs d'éoliennes de très grande densité sur la mer Baltique, par exemple, et les conséquences que ce déploiement pourrait avoir sur les écoulements des vents régionaux. Ça a été également testé sur des fermes éoliennes au Texas, par exemple. Des déploiements de très grande densité. Si vous mettez des éoliennes terrestres, vous avez un effet de sillage derrière ces éoliennes, vous changez la turbulence, vous pouvez changer un peu l'évaporation et les conditions de production agricole à côté de ces fermes éoliennes. Donc cela fait partie... Des voies d'utilisation des mêmes modèles que ceux utilisés pour simuler le climat. De la même manière, vous pouvez aussi vous dire que se passerait-il si on avait une éruption volcanique majeure demain ? Les mêmes modèles de climat peuvent être utilisés pour anticiper ces conséquences sur, par exemple, la capacité de production agricole, etc. Donc on a évidemment tout un champ d'application selon les scénarios qu'on imagine, finalement, qui sont étudiés. De même que des stratégies de géo-ingénierie, de manipulation délibérée du climat, commencent à être étudiées avec ces mêmes modèles pour évaluer finalement les risques climatiques associés.
Juste, j'ai reposé une question, mais les scénarios les plus improbables, les scénarios du one shot d'un phénomène exceptionnel qui modifie complètement tout, est-ce que ça on peut ne serait-ce qu'envisager de les modéliser, ou est-ce que c'est juste exclu et c'est la science-fiction finalement?
Non, mais je peux par exemple parler d'un collègue américain qui travaille à New York qui s'appelle Alan Robock, qui avait simulé des hivers nucléaires, qui avait simulé l'impact un peu indirectement, pas parfaitement, mais ce que pourrait être l'impact d'une comète à la surface de la Terre qui mettrait un nuage de particules en suspension dans l'atmosphère, et quelles seraient les conséquences sur le climat planétaire. Donc effectivement, on peut faire de manière un peu grossière, évidemment, des expériences de ce type-là, virtuelles, à l'aide de ces modèles de climat. Et je dois dire que l'imagination des climatologues... elle est assez grande, mais elle ne couvre pas tous les cas possibles. mais beaucoup ont déjà été testés, ne serait-ce que pour fournir des tests par rapport au fonctionnement même du climat et des tests de ces modèles dans des conditions un peu extrêmes.
D'autres questions ?
Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que le meilleur scénario, c'était une élévation de 1,5 à 2 degrés. Et vous avez dit ensuite que les gouvernements à Copenhague avaient pris comme résolution de fixer le cas critique à 2 degrés. Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment soit écouté les scientifiques ou juste pris le meilleur scénario et promis qu'ils n'allaient pas le dépasser ? Ou alors qu'ils ont trop promis et que le scénario probable sera autre chose ?
Alors d'abord, en tout cas, merci d'avoir écouté ce que j'ai dit, parce que parfois il y a une confusion où on croit que ce sont les climatologues qui ont prescrit qu'il ne fallait pas dépasser un certain seuil de température. Donc ça n'est pas le cas. Cet objectif des 2 degrés, il est né dans les années 90 d'une réunion de ministres européens qui ont commencé à discuter des risques climatiques, des conséquences à de nombreux niveaux. Et moi, j'ai parlé de climat, j'ai parlé d'écosystème, on peut parler d'activité humaine, on peut parler de migration, etc. Il y a beaucoup de facettes qui seraient mises en mouvement par un climat qui change fort. Et donc, suite en particulier donc, à ce Conseil des ministres européens, ils ont pris les simulations qui existaient à cette époque-là. Que se passerait-il si ça se réchauffait de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés ? Quelles seraient les conséquences ? Et les critères qui avaient été pris, c'est impact sur le niveau des mers, conséquences irréversibles, par exemple fonte des glaces du Groenland, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir revenir en arrière du tout, acidification des océans et production agricole, en gros. Hein. C'est-à-dire essayer d'avoir un climat qui ait le moins d'impact possible, incontrôlable, et le moins d'impact possible sur la capacité de nous nourrir dans l'état des connaissances actuelles. Donc ils sont arrivés aux 2 degrés de cette manière-là. On peut toujours discuter sans fin de la valeur exacte. Et d'un autre côté, ces 2 degrés, c'est, si on prend l'histoire du climat, le climat de la période chaude actuelle, depuis la fin de la dernière glaciation, depuis environ 11 700 ans, il n'a pas varié de plus de 2 degrés. Et on sait que c'est le climat qui a permis la sédentarisation, le développement des civilisations, etc. Donc il y a aussi ce côté retour sur le climat favorable à la construction de nos civilisations qui est important. Quelque part, ils ont, je dirais, ces gouvernements, ils ont voulu sacraliser le climat pré-industriel. On a envie de le dire. En même temps, donc, dans les simulations qui existaient en 2009, au moment de l'accord de Copenhague sur le climat, c'était le scénario le plus bas disponible dans les simulations qui existaient. Donc ils se sont dit, donc celui-là, il a l'air à peu près acceptable et faisable. Dans les nouvelles simulations qui ont été faites là, les seuls qui permettent, avec un degré de confiance important, de rester sous la barre des 2 degrés, ce sont des simulations où les émissions de dioxyde de carbone piquent maintenant, en gros, hein, restent stables dans les prochains 20 ans, diminuent avant 2050 et deviennent quasiment négatives après. On n'est pas sur cette trajectoire au niveau mondial. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire d'exploitation croissante des ressources fossiles, pétrole, charbon, gaz non conventionnel, etc. Donc on est sur une trajectoire qui s'éloigne de plus en plus de cet objectif. Et pourtant, les gouvernements l'ont affirmé en 2009, l'ont réaffirmé à Cancun par la suite. Moi, j'ai un peu un sentiment de schizophrénie quelque part entre cet affichage d'un objectif et puis en même temps, une poursuite des émissions de dioxyde de carbone et des autres gaz qui augmentent et qui éloignent de plus en plus de cet objectif. Donc il y a un vrai décalage, je dirais, entre l'action telle qu'on peut la mesurer, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, et puis les déclarations d'intention. Peut-être que ce qui est le plus préoccupant, c'est que si on n'agit pas, dans 20 ans, à peu près 20 à 30 ans, on aura émis la quantité totale de dioxyde de carbone qui, inéluctablement, conduira à un réchauffement de plus de 2 degrés. Donc il y a presque une forme de cynisme dans le décalage entre la déclaration et l'action. Et il faut bien voir qu'un certain nombre de pays ne respectent déjà pas leurs engagements internationaux. C'est le cas du Canada, c'est le cas du Japon, c'est le cas de l'Australie, Voilà, donc on a vraiment ce décalage. Et puis, on a ces points de blocage également entre la responsabilité historique des pays industrialisés et ce que réclament les pays émergents, c'est-à-dire un droit de sortir leur population de la pauvreté grâce aux énergies les moins chères et en particulier au charbon. Donc on a là des points de blocage où on peut être tous perdants assez rapidement. La prochaine grande négociation sur le climat, elle aura lieu à Paris en 2015, la prochaine conférence internationale. Et ce sera, je pense, un point important de savoir si on aura des engagements et des accords contraignants ou pas. Si on n'a pas d'accords contraignants, je crains que la bonne volonté ne suffise pas du tout par rapport à l'objectif affiché par les gouvernements.
Eh ben, ce sera le mot de la fin, en espérant qu'on arrivera à s'en sortir. La petite musique nous dit que nous avons atteint l'heure. Merci beaucoup, Valérie. Merci à vous. Et à très bientôt.